Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 10 de la Sainte Sourate Balad. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Non, j'en jure par cette cité. Or, c'est comme citoyen que tu es dans cette cité, et par l'engendreur et ce qu'il engendre. Très certainement, nous avons créé l'homme en lutte. Compte-t-il que nul ne sera capable contre lui? Il dit, « J'ai gaspillé beaucoup de biens. » Compte-t-il que nul ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas assigné deux yeux et une langue et deux lèvres, et nous l'avons guidé aux deux voies.
« Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce lundi 19 avril 2021. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran, la Russie et la Syrie ont mis en place une salle d'opération pour assurer la sécurité durable et stable aux navires iraniens et russes en Méditerranée. La base aérienne irakienne de Balad, qui héberge les troupes américaines, a été visée par roquettes. Et au Niger, 19 civils ont été tués dans une attaque terroriste dans l'ouest du pays. C'était les principaux titres. En voici le journal. L'Iran, la Russie et la Syrie ont mis en place une salle d'opération pour assurer la sécurité durable et stable aux navires iraniens et russes en Méditerranée. Les représentants iraniens, russes et syriens ont tenu ces derniers jours des réunions serrées pour trouver des moyens de briser le blocus arbitraire imposé par les États-Unis et l'Europe à la Syrie. La salle d'opération conjointe a pour mission d'améliorer la coordination multidimensionnelle pour garantir l'arrivée du pétrole, du blé et d'autres matières essentielles pour la Syrie. Sur la base d'un mécanisme convenu, les navires de guerre russes escorteront les pétroliers iraniens arrivant en Syrie lorsqu'ils navigueront dans le canal de Suez et jusqu'à ce qu'ils atteignent les eaux territoriales syriennes. Le nouveau mécanisme a assuré un accès sûr aux eaux territoriales syriennes pour 4 pétroliers iraniens transportant du pétrole brut et du gaz naturel et escortés par des navires de guerre russes ces derniers jours. Le ministre syrien du pétrole et des ressources minérales, Bassam Toma, a déclaré en mars dernier que les États-Unis et leurs alliés terroristes pillaient les ressources pétrolières du pays. Le ministre syrien a déclaré que Washington contrôlait 90% des réserves de brut dans le nord-est de la Syrie, riche en pétrole. L'ambassadeur permanent d'Iran auprès des organisations internationales basées à Vienne a déclaré que les États-Unis devaient présenter une liste des mesures qu'ils prendraient pour lever les sanctions contre l'Iran afin de prouver leur sérieux dans les négociations en cours sur l'accord nucléaire de 2015 dans la capitale autrichienne. Il est nécessaire d'identifier et d'énumérer les étapes de la levée des sanctions afin d'examiner le sérieux de Washington dans sa déclaration de volonté de revenir et d'honorer pleinement le plan global d'action conjoint et de vérifier si cela correspond à la politique déclarée de l'Iran, a déclaré dimanche 18 avril le représentant permanent d'Iran, Kazem Ghalibabadi. Il a déclaré que les négociateurs iraniens agissaient conformément aux principes de la République islamique d'Iran, énoncés par le leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Ali Khamenei. Les pourparlers ont commencé au début du mois et incluent les autres parties du plan global d'action conjoint, à savoir l'Iran, la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, tout en excluant les États-Unis. En Irak, la base aérienne de Balad a été visée par roquettes la nuit du dimanche 18 avril. Ces roquettes ont visé pendant la nuit la base aérienne de Balad située à 64 km au nord de la capitale Bagdad, a annoncé Sabahin News. La base aérienne de Balad abrite des troupes américaines, des avions de combat F-16 et le siège de la société américaine de sécurité Saliport. Aussitôt après l'attaque, les hélicoptères américains ont commencé à survoler les alentours de la base et des véhicules de secours s'étaient précipités sur les lieux de l'attaque. 5 militaires américains ont été blessés, selon des sources irakiennes. Sabahin News a annoncé pour sa part que des entrepreneurs étrangers travaillant pour la coalition dirigée par les États-Unis avaient été également blessés. L'attaque a été menée depuis Dojma, dans la ville d'Al-Khalis de la province de Diyala. Par ailleurs, un camion en mission pour la coalition US avait fait l'objet d'un attentat à la bombe qui a explosé en bord de la route dans le sud de Nasiriyah, dans la province de Zirar, ont annoncé des sources de sécurité irakiennes. D'opérations spéciales ont été menées dimanche 18 avril dans diverses villes irakiennes, dont la capitale Bagdad, pour y établir la sécurité. Au cours de ces opérations, des dizaines d'individus poursuivis par la justice ont été identifiés et arrêtés et d'importantes quantités d'armes et de matières explosives découvertes. Dans la capitale, les forces d'une unité conjointe des forces de commandement d'opérations de Bagdad ont effectué, sur la base d'informations précises collectées auparavant, des opérations de fouilles dans certaines régions où elles ont découvert et confisqué de revolvers, 21 balles et d'autres munitions. 4 suspects ont été également arrêtés alors qu'ils portaient sur eux du stupéfiant. De même, un contingent des forces de commandement d'opération de Diyala a lancé une opération de fuite dans le village d'Al-Sawajen, dans la zone de Apap de Diyala. 3 obus de calibre 82 et un obus de calibre 60 ont été trouvés et confisqués. Un groupe de forces de commandement d'opération d'Al-Ambar a découvert Al-Karama 13 bombes artisanales qu'elles ont fait exploser sur place. Une autre unité des forces de commandement d'opération de Bassora a interpellé 66 personnes et saisi 3 fusils AK et un revolver. Et enfin, à Kirkouk, des forces de commandement d'opération conjointes ont découvert au cours de leur opération 7 bombes artisanales. Au Yémen, les victoires enregistrées par l'armée et les comités populaires à Sarala ces dernières 24 heures à Marib laissent prévoir une libération imminente de cette ville stratégique. Ce dimanche, les forces de l'armée et d'Ansarallah ont repris le contrôle de plusieurs régions stratégiques de la province de Marib. D'autre part, des sources yéménites ont fait part de l'effondrement des unités de mercenaires à la solde de Riyad et de terroristes Al-Qaïda. Après s'être approché de la base militaire de San Al-Jin et après avoir pris le contrôle des monts Al-Balar al-Rabli, les forces de Sana'a se dirigent vers le chef-lieu de la province de Marib dans l'objectif de l'assiéger depuis l'ouest et le sud. Elles ont déplacé leur champ de conflit depuis l'ouest vers le sud et ont repoussé les mercenaires pro-Riyad pour épargner la vie des effectifs et réaliser ainsi le plan de l'encerclement de la ville de Marib. L'armée et les comités populaires du Yémen ont enregistré des percées considérables à l'ouest d'Al-Tala al-Hamra et ont réussi à déclencher de nouveaux affrontements à Al-Touma du nord et à Al-Touma du sud, situés à 5 km du centre de commandement de la 3e zone militaire des forces liées à l'Arabie saoudite. En Syrie, les élections présidentielles se tiendront en mai, a annoncé dimanche le Parlement syrien. La campagne présidentielle sera lancée le 19 avril, a précisé le président du Parlement syrien, Hamouda Sabak, ajoutant que ceux qui souhaitent se présenter aux élections peuvent soumettre leur candidature au cours des 10 prochains jours. La journée électorale pour les ressortissants syriens à l'étranger est fixée au 20 mai, alors que pour les Syriens à l'intérieur du pays, la date est prévue le 26 mai, a expliqué le président du Parlement. En France, au moins 4 personnes ont été tuées dans un incident d'avion de tourisme. Un avion de tourisme s'est écrasé ce dimanche en banlieue parisienne, faisant au moins 4 morts, selon plusieurs médias français. L'avion de type Robin DR400 avait décollé de l'aéroport de Beauvais, situé dans l'Oise, et s'est écrasé dans un champ situé dans la commune de Saint-Patouze. L'accident s'est produit à seulement 50 mètres d'une route départementale. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Au Niger, 19 personnes ont été tuées dans une attaque terroriste survenue samedi soir dans le village de Gaïgorou, dans la région de Tillaberi, proche de la frontière avec le Mali, a annoncé dimanche soir le ministre nigérien de la Défense, Al-Kassoum Indatou, à la télévision publique. Ces dernières années, cette partie occidentale du Niger est devenue le théâtre des attaques menées par des groupes terroristes contre les forces armées et même des populations civiles. Un rapport sera rendu public ce lundi 19 avril en fin d'après-midi à Kigali, 3 semaines après celui de la commission du Clerc qui avait conclu à de lourdes et accablantes responsabilités de la France. 3 semaines après la publication du rapport de la commission du Clerc à Paris, c'est donc au tour de Kigali de dévoiler ce lundi les conclusions d'une enquête sur le rôle de la France au Rwanda dans les années 90. Elles seront présentées au gouvernement rwandais à la mi-journée avant d'être rendues publiques. De Paris à Kigali, l'implication française dans le génocide des Tutsis en 1994 continue décidément de hanter les mémoires et de susciter des questions plus d'un quart de siècle après la tragédie. Le rapport du Clerc a tiré la première salve, mais en réalité, l'enquête rendue publique ce lundi au Rwanda avait été décidée fin 2016, bien avant la formation de la commission du Clerc en France. Créée le 5 avril 2019, la commission du Clerc regroupait des historiens, des archivistes, des juristes et des fonctionnaires de l'éducation nationale. Tous bénéficiaient de l'habilitation secret défense, permettant pour la première fois un accès assez large, mais pas complet, à des archives jusque-là verrouillées. Au bout de 2 ans de fuite dans les cartons des administrations concernées, le rapport rendu le 26 mars à Paris conclut à de lourdes et accablantes responsabilités pour la France au Rwanda. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Le Hezbollah prépare la guerre. Depuis 2 jours, les milieux US Israël se sentent totalement pris de court par une initiative anti-sanctions US du Hezbollah qui fait des remous. À l'image du Venezuela de 2020, où le régime des sanctions américaines a été réduit à néant lorsque l'Iran a envoyé sous le nez et la barbe de la 4e flotte US 5 de ses navires cargo livrés de l'essence aux Vénézuéliens, initiative qu'il a conjurée dans la foulée par l'ouverture d'un grand espace commercial, le sud du Liban devient une zone anti-sanctions. Depuis 2 jours, la résistance libanaise distribue des cartes de rationnement, offre des produits iraniens de bon marché et ouvre ainsi une brèche dans l'édifice des sanctions américaines qui, n'en déplaise à l'ambassadrice Shea, commence à gravement ternir l'image US auprès des Libanais. Car alors même que la résistance libanaise vole au secours des Libanais à l'aide d'une Syrie et d'un Iran qui contribuent à l'initiative, le clan US-France continue à bloquer tout mécanisme, quitte à provoquer le breakdown de l'État libanais, à punir leurs propres relais locaux. Le Hezbollah et à travers lui le Liban rallie-t-il ainsi le corridor maritime anti-sanctions qui s'étend désormais du golfe Persique à la Méditerranée pour aller vers les Caraïbes? Visiblement, la guerre anti-US, anti-Israël de la résistance est entrée là dans des zones jusqu'ici interdites, à savoir l'économie, dont au Liban on connaît la dépendance totale envers les instances que sont le FMI et la Banque mondiale. Mais l'économie de la résistance, telle que le pratique le Hezbollah, est aussi un coup porté au cœur même du dollar, car il s'agit d'une économie qui contourne largement les banques et se moque du billet vert. Mais est-ce réellement la crainte d'un effondrement de l'État libanais qui motive la résistance libanaise à constituer des réserves de carburant et de denrées alimentaires? Certaines sources en doutent dans la mesure où les plans US-Israël contre l'État libanais commencent à s'épuiser. Le 4 août, l'axe US-Israël a tenté une explosion atomique pour désarmer le Hezbollah, et ce, sur fond des manœuvres de déstabilisation, des manifs, des tentatives d'infiltration, sans qu'aucun de ces démarches n'aboutisse. À défaut de pouvoir se maintenir en Irak, où la résistance chasse à coups de drones et de missiles les GIs, ou encore en Syrie, où les plus grandes bases de contrebande US du pétrole syrien sont de plus en plus exposées aux missiles de la résistance syrienne, l'axe US-Israël finira-t-il par tenter une action directe? Le Hezbollah se prépare-t-il à une face-à-face directe avec l'axe US-Israël? Possible. Il semblerait que le moment est venu pour que la Syrie rende la monnaie de la pièce du Hezbollah, qui a fait don de la vie des dizaines de ses combattants pour que la Syrie tienne debout. Samedi 17 avril, les habitants du Golan ont descendu célébrer l'anniversaire de l'expulsion de la puissance colonialiste française et ont saisi l'occasion pour réitérer leur allégeance à la Syrie et leur réprobation face à Israël. Lors de toutes les manifestations anti-Israël au Golan, le mot le plus entendu, selon des témoins, aura été la résistance. Le Hezbollah dispose des dizaines de bases en Syrie, surtout au Golan, bases potentiellement explosives pour Israël, qui, à l'heure qu'il est, se demande comment faire face à une guerre multifront qui s'étend désormais non seulement du nord au sud, mais encore à l'est, vers les frontières irakiennes, ou encore vers la mer Rouge, où en Sahara la rogne le frein pour en découdre avec l'entité. Puis, ces monts proches de Jabal al-Sheikh, ils auraient peut-être caché en leur sein des souterrains de missiles, mais le fait de les localiser ne garantit nullement le succès d'une frappe, par exemple, à la bombe anti-bunkers. Pourquoi ? Parce que le Hezbollah n'est pas né de la dernière pluie et que le clash final avec Israël, il le prépare depuis longtemps. Après tout, ce n'est pas uniquement les Hasht ou Ansarallah qui se sont mis à l'heure des drones. Des nuées fatidiques qui pourront aussi partir du sud du Liban vers Haïfa, Tel Aviv.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce dimanche 18 avril 2021. Les relations américano-russes ne cessent de se dégrader sur fond d'accusations par Washington d'ingérence dans l'élection présidentielle de 2020, d'espionnage et de cyberattaque. Dans ce contexte, le président américain Joe Biden a annoncé jeudi des sanctions contre plusieurs personnes et entités russes, dont l'expulsion de 10 diplomates russes et l'interdiction par les banques américaines d'acheter directement de la dette émise par la Russie. La réponse de la Russie n'a pas tardé à venir. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a décidé à son tour d'expulser 10 diplomates américains et dévoiler diverses restrictions qui compliqueront, bien entendu, la vie des représentations américaines en Russie, dont l'interdiction, en effet, aux ONG et représentations américaines, en effet, qui s'ingèrent ouvertement dans la politique intérieure de la Russie. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ces nouvelles tensions dans les relations entre Washington et Moscou et ses répercussions, notamment depuis l'entrée en fonction du président américain Joe Biden. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
La Russie a répliqué vendredi aux sanctions de Washington annoncées la veille en expulsant à son tour 10 diplomates américains. La Russie a annoncé vendredi qu'elle allait expulser 10 diplomates américains en réponse aux sanctions prises la veille par les États-Unis, ajoutant avoir recommandé à l'ambassadeur américain à Moscou de rentrer à Washington. 10 diplomates ont été inclus à la liste qui nous a été remise avec la demande qu'ils quittent les États-Unis. Nous allons répondre à cette mesure de manière réciproque et demanderons à 10 diplomates américains en Russie de quitter notre pays, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, au cours d'une conférence de presse. Selon M. Lavrov, la Russie a par ailleurs recommandé à l'ambassadeur des États-Unis à Moscou, John Sullivan, de rentrer à Washington pour des consultations approfondies et sérieuses. L'ambassadeur russe aux États-Unis, Anatoly Antonov, avait quant à lui été rappelé à Moscou dès le 17 mars pour consultation. M. Lavrov a également évoqué une série de mesures de représailles telles que l'interdiction faite aux représentations diplomatiques américaines en Russie d'embaucher des Russes ou des citoyens d'autres pays que les États-Unis et un renforcement des restrictions dans le déplacement des diplomates américains sur le territoire russe. Autre mesure, nous allons restreindre et mettre fin aux activités des fondations et ONG américaines sur notre territoire qui, en réalité, s'ingèrent ouvertement dans notre vie politique intérieure, a-t-il poursuivi. Le chef de la diplomatie russe a aussi assuré que Moscou avait la possibilité de prendre des mesures douloureuses pour les entreprises américaines, mais les garder en réserve pour le moment. Washington annonçait jeudi une nouvelle vague de sanctions à Moscou en réponse à une série d'actes qui lui imputent, dont des cyberattaques massives et des ingérences dans l'élection présidentielle américaine de novembre. Moscou dément de son côté toute implication.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Bruxelles Luc Michel, géopoliticien, et depuis Moscou Fabrice Bauer, expert pour l'ONG EOD. Monsieur Bauer, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour, toujours un plaisir d'être sur votre antenne.
Alors, les tensions ne cessent de monter dans les relations entre Washington et Moscou. Le dernier rebondissement, en quelque sorte, ces sanctions imposées jeudi par Washington, par le président américain, en effet, à plusieurs entités et personnes russes. Bien sûr, la riposte de la Russie n'a pas tardé. Le lendemain, une riposte annoncée par Sergueï Lavrov. À quel type de relation assiste-t-on, M. Bauer, entre Moscou et Washington depuis l'entrée en fonction de Joe Biden?
La continuité, puisque, quelle que soit l'administration américaine, la géopolitique appliquée par les États-Unis, par le département d'État, aux mains des néoconservateurs américains ne change pas. Et celle-ci, c'est que la Russie est le pire au cœur de l'Eurasie. Il faut contrôler l'Eurasie pour contrôler le monde afin de continuer leur domination mondiale. Je l'ai résumé très rapidement, mais c'est cela qu'il faut voir. Et donc, avec l'administration Biden, à quoi assistons-nous? On assiste effectivement à une nouvelle administration, donc nouveau bras de fer, pour, comme disent-ils, négocier et essayer d'engager une désescalade. Qu'il qualifie d'ailleurs par inversion accusatoire la Russie lorsqu'elle répond effectivement aux propres sanctions donc américaines, les contre-sanctions russes deviennent donc des sanctions ne permettent pas la désescalade des relations entre les États-Unis et Moscou. Donc on assiste tout simplement à la continuation de la politique de containment des États-Unis vis-à-vis de la Russie et en particulier, je conclurai dessus sur votre première question, sur l'axe majeur qu'ils utilisent à l'heure d'aujourd'hui, c'est-à-dire les pions, leur dominion, on va dire, sur le terrain, dans le cas précis de l'Ukraine, puisqu'il est bien connu que les Américains défendront l'Ukraine jusqu'au dernier soldat ukrainien, et ils utilisent donc l'arme des sanctions économiques, puisque c'est celles-ci qui sont aujourd'hui la seule arme que les États-Unis utilisent, mais une arme importante, puisque dans le cadre aujourd'hui encore de la domination du dollar dans l'économie mondiale, c'est une arme effectivement qui est importante, mais dont se dégage de plus en plus le bloc eurasiatique, à savoir Pékin, Moscou et même votre pays. Donc, pour conclure sur votre question véritablement, on assiste à un nouveau bras de fer, sauf que Moscou aujourd'hui a décidé de répondre et de répondre de manière plus dure, afin de démontrer qu'il était hors de question qu'on continue ce petit jeu de un pas en arrière et deux pas en avant que mène l'impérialisme américain face à l'Europe eurasiatique que construit aujourd'hui Moscou face à l'OTAN.
Merci pour ces précisions. Restez avec nous. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, c'est toujours un plaisir et bonjour à vos camarades à Bruxelles.
Monsieur Michel, si l'objectif de la nouvelle administration américaine est d'engager, comme l'a fait remarquer Monsieur Barr, une escalade s'inscrit dans la continuité de la précédente administration américaine, pourquoi Biden a proposé un sommet à Poutine, premièrement? Et deuxièmement, quelle est la place de l'Ukraine, notamment dans ce nouveau bras de fer entre Washington et Moscou?
Écoutez, tout d'abord, il faut constater une chose, c'est que c'est l'approfondissement d'une crise qui a commencé en mars 2014 avec le retour de la Crimée à la Fédération de Russie. On a eu une première guerre froide, qu'on a appelée la guerre froide 2.0, ouverte par l'administration Obama. Et aujourd'hui, on assiste à l'ouverture de ce qu'on appelle la guerre froide 3.0, qui est contre l'axe Moscou-Pékin-Téhéran. C'est une guerre qui se caractérise par des sanctions économiques, une confrontation militaire et une guerre médiatique, ce qu'on appelle la Russophobie. La position maintenant de l'administration Biden, ce sont les plus radicaux des anti-russes, des anti-chinois et des anti-iraniens qui sont arrivés aux affaires. La vice-présidente Kamala Harris, qui détient la réalité du pouvoir, Biden étant un président vieilli et diminué intellectuellement, Kamala Harris, c'est le proche du milliardaire George Soros qui déstabilise tout le bloc de l'Est depuis 20 ans. Elle est en train d'approfondir la confrontation, pas seulement en Europe d'ailleurs, mais en Eurasie, en mer de Chine et également en Afrique, qui est un des théâtres principaux de ce qui arrive. Quel est le rôle de l'Ukraine au milieu de tout ça? C'est un des points chauds de la confrontation. La confrontation, elle a plusieurs points chauds. Il y a tout d'abord la Syrie, il y a la mer de Chine et le Xinjiang, il y a l'Ukraine sur la mer Noire et il y a le golfe de Guinée en Afrique. Ce sont les quatre points où on a un risque d'intervention militaire, de confrontation militaire, plus seulement d'une guerre géopolitique ou diplomatique. Il faut constater que ce qui est en train de se mettre en place, c'est la configuration de la troisième guerre mondiale. La troisième guerre mondiale, les géopoliticiens américains en parlent ouvertement, John Friedman, par exemple, dans son livre de Nelson Reagan, ils voient cette troisième guerre mondiale entre 2050 et 2070. Nous assistons au critique de cette position. On assiste à la recomposition de blocs. Le bloc américano-atlantique se recompose sur la base de ce qu'on appelle les trois OTAN, l'OTAN proprement dit en Europe, l'OTAN du Moyen-Orient en mer Rouge et enfin l'OTAN de l'Asie, avec ce qu'on appelle le Quad. Et parallèlement à ça, c'est ça qui est nouveau par rapport à la guerre froide 2.0, c'est la constitution d'un bloc de l'Est avec Pékin, avec Iran, avec Moscou. Ce bloc qui est en train de s'orienter non plus vers une alliance géopolitique, mais vers une alliance militaire. Et c'est contre cela que l'Amérique, évidemment, essaie d'intimider. Il y a une parole, je vais conclure là-dessus, cette première intervention, il y a une parole de l'administration Biden qui revient de façon obsessionnelle. C'est négocier en position de force. C'est la raison pour laquelle on humilie la Russie, pour laquelle on humilie la Chine, et pour laquelle on a cette politique d'agression contre l'Iran. Cette prétention de négocier en position de force, c'est un rêve de l'administration Biden et qui va coûter cher à certains de ses alliés. Je pense à l'Ukraine en bas.
Merci pour ces éclairages, Monsieur Michel. Monsieur Barr, tout récemment, la diplomatie russe a accusé les États-Unis, mais aussi l'OTAN, de transformer consciemment l'Ukraine en une poudrière, avec notamment les livraisons d'armes, mais aussi le déploiement militaire en mer Noire. Ceci étant dit, est-ce qu'il y aura un risque, le risque d'une confrontation ouverte entre les deux parties, sur fond, bien sûr, d'escalade de tensions en Ukraine?
Alors, je ne pense pas qu'il y aura un affrontement militaire à l'heure d'aujourd'hui en Ukraine, pour plusieurs raisons. Je parle d'un point de vue, effectivement, de la position de Moscou. La position de Moscou, ça a été face, effectivement, depuis des semaines, ça fait à peu près même 3 mois, la montée en puissance des forces, je dirais, enfin, l'essentiel de ce qui peut encore combattre dans l'armée ukrainienne auprès de la ligne de front autour du Donbass, des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, pour éviter justement cette agression militaire qu'il pensait pouvoir faire grâce d'ailleurs à l'entraînement au matériel américain, aux formateurs des pays de l'OTAN et en particulier aux drones que les Turcs ont livrés d'une manière très rapide, faut-il le rappeler, à pouvoir refaire ce qui s'est passé au Haut-Karabakh. Sauf que les Russes, pour éviter, puisque leur politique est d'éviter effectivement la guerre, a amassé essentiellement des forces auprès de ses frontières, des frontières auprès de Kharkov, donc c'est au nord, et donc à l'est de l'Ukraine. Non pour envahir, mais pour préciser que s'il y avait effectivement agression, celle-ci ne serait pas tolérée. Ça a été dit par plusieurs canaux diplomatiques et même médiatiques, et cela a bien été compris, bien évidemment, à l'OTAN et aux États-Unis. C'est pourquoi on a vu en partie après la conversation téléphonique de Biden avec Poutine le fait que deux navires américains qui devaient rentrer dans la mer Noire effectivement n'ont pas franchi le Bosphore et ont fait marche arrière. Donc ça, c'était une main certainement dans la discussion qui a été indiquée. Maintenant, ça a toujours été la volonté de Kiev, puisque Kiev, en 2014, bien qu'il y ait un accord qui permettait de passer le pouvoir d'une manière progressive à l'opposition, a quand même fait son coup d'État, puisque ça voulait le pouvoir intégral et non pas les négociations de consensus. Et la junte, qui est arrivée au pouvoir, a comme force vive principalement les nostalgiques de la collaboration ukrainienne avec les nazis, qu'on appelle les bandéristes. Et ceux-là, effectivement, sont des ultra-nationalistes, pro-américains, pro-OTAN, qui veulent évidemment la confrontation avec la Russie. Ils sont poussés en cela évidemment par les pays russophobes de la région, mais qui jouent avec le feu, parce que si l'Ukraine a des visions sur une partie de l'Est, de l'Ouest, si la Pologne a une vue sur une partie de l'Ouest de l'Ukraine, également je parle de la Roumanie, ils oublient que ces gens-là les détestent également. Bon, ça c'est le côté de la russophobie, où on n'est pas prêt de parler avec de la raison. Mais aujourd'hui, pour répondre et conclure sur votre question, s'il y avait eu un risque d'affrontement, elle a été totalement neutralisée par la démonstration de force de l'armée russe, qui donc a imposé, a évité que ce conflit soit lancé par Kiev. Et comprenons bien qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, autant l'impossibilité ou la très mauvaise gestion de la crise sanitaire et la crise économique et financière qui va s'abattre après sur le monde entier, en particulier sur le monde occidental, avec ce qui se passe aussi également dans le Brexit, si personne, je l'ai indiqué, n'a voulu mourir pour Dantzig, personne ne va vouloir mourir pour Kiev. Ça, il faut bien s'en rendre compte. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où certains à Washington poussaient les ultranationalistes à Kiev pour aller à la confrontation et faire une épuration ethnique, puisque c'est le terme exact qu'ils employaient à Kiev il y a quelques semaines, a totalement échoué. Et aujourd'hui, la négociation, c'est pour l'Occident, comment ne pas perdre Kiev, pas dans le sens qu'ils veulent l'occuper, dans le sens qu'ils ont besoin de cet État déstabilisé et chaotique afin de continuer leur politique de présence, des justifications de la présence de l'OTAN et donc de complément de la Russie. Donc la position qu'ils ont à l'heure actuelle, c'est de ne pas perdre Kiev, puisqu'ils le pourraient, puisqu'une offensive de Kiev, évidemment, serait vouée à l'échec et ferait renaître le projet politique de la Novorossiya et donc la fin de l'État ukrainien tel qu'il est. Donc aujourd'hui, Moscou est bien en état de force, en état de position de force, Et c'est en cela que les gesticulations de Moscou ou de Paris ou de Berlin ne valent pas grand-chose et sont là juste pour un peu épater la galerie. Mais la dernière visite du président, du président clown ukrainien, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, n'a pas donné grand-chose puisqu'il n'avait rien à obtenir. L'Union européenne ne va pas intégrer de nouveaux pays et l'OTAN, il faudrait en cela l'unanimité. Et bien évidemment, et là en partie, Paris, dans une pointe de sagesse, on va dire, refuse évidemment, et Berlin également refuse que ce pays rentre dans l'OTAN, parce que ça voudrait dire rentrer en conflit avec la Russie, et personne de ces pays ne veut un affrontement avec la Russie, qui aujourd'hui fait qu'ils ne sont pas sûrs d'ailleurs de pouvoir la gagner.
Merci. Merci encore. Une toute dernière question à M. Michel. M. Michel, pour de nombreux analystes, les mesures anti-russes des États-Unis, mais aussi de l'Europe, ne sont pas suivies d'effet. En d'autres termes, les sanctions occidentales contre Moscou sont une stratégie vouée à l'échec. Ceci étant dit, est-ce que là, il s'agit de la part de l'Occident, et en l'occurrence de l'administration américaine, de la nouvelle administration américaine, de suivre une stratégie de provocation à l'égard de la Russie? Et si c'est vrai, dans quel objectif?
Vous avez tout à fait raison. C'est une stratégie de provocation, mais ces gens se croient les maîtres du monde. La caractéristique de l'administration Biden, avec des gens comme Kamala Harris, est tapis dans l'eau de milliardaires sur son compte, qui a un pied maintenant à la Maison Blanche, c'est de se croire tout puissant et capable de tout. Leur stratégie, de toute façon, elle est simple. C'est ce qu'on appelle la géostratégie du chaos, qui a été mise au point dans la Somalie des années 1990 et appliquée à de nombreux États du monde. Les Américains pensent que ce chaos est constructif et qu'ils peuvent continuer à assurer leur maîtrise sur le monde à partir de ce chaos. Il faut quand même se rappeler que dans le cas de l'Ukraine, on a un précédent, c'est la guerre russo-géorgienne de 2008. En 2008, les Géorgiens ont fait ce qu'on reste du crédit au public. Ils ont attaqué une petite république autoproclamée pro-russe qu'on appelle l'Ossétie du Sud, et ils ont cru qu'ils allaient l'écraser. Comme les Ukrainiens pensent qu'ils vont écraser une république de Donetsk et de Lugansk. Qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement, l'armée russe est entrée en Géorgie et a donné une solide correction aux Géorgiens. L'armée russe ne s'est arrêtée qu'aux portes de Tbilissi dans un geste diplomatique d'alliance qui était en direction de la France de Sarkozy. C'est la même chose aujourd'hui. Le problème de toutes ces stratégies de la tension, c'est qu'elle est lourde de potentialité de guerre. Tout peut déraper à partir d'un incident ou de quelque chose. Nous avons de plus en plus. Vous savez, il y a un film célèbre, c'est le docteur Polanyi. Les gens qui sont à la tête maintenant de l'administration américaine et de l'OTAN, ce sont les docteurs pour la boue. À Varsovie, dans les pays pâles, à Kiev, il y a des docteurs pour la boue. C'est-à-dire des gens qui pensent que l'Amérique va les soutenir dans une guerre de planétie, ce qui n'arrivera pas. Vous savez, Poutine a résumé le dossier il y a quelques années. Il a dit, c'était l'époque Obama, il lui a dit, n'oubliez pas que je suis le seul chef d'État au monde qui peut vous vitrifier en moins d'une heure. Les Russes ont hérité de l'Union soviétique 10 000 bombes nucléaires. C'est plus que dans possède les États-Unis. C'est le legs soviétique à la Russie de Poutine. Et ça la rend évidemment un adversaire extrêmement redoutable. On le sait à Washington, on le sait dans la diplomatie américaine, on le sait aux généraux du Pentagone. Comme on avait calmé Donald Trump, on est en train de calmer Joe Biden.
Monsieur Michel, ceci étant dit, alors, quel sera l'avenir, justement, des relations russo-américaines? Et surtout, quel en sera l'impact sur la scène des relations internationales? Je veux dire, plus précisément, pour mettre fin à l'unilatéralisme américain et la construction d'un monde multipolaire.
Je vous l'ai dit, on fait retour à la dernière décennie de la première guerre froide, c'est-à-dire la confrontation. Qu'est-ce qui se caractérise? C'est la confrontation diplomatique et politique. Rappelez-vous, qu'en 1980, c'était le boycott des Jeux Olympiques de Moscou. Bon, il y avait un boycott économique qui visait à détruire le pétrole russe, et il y avait une série de guerres par procuration. Il y a eu notamment en Afghanistan, il y a eu en Afrique, le Mozambique et l'Angola. On réassiste à ceci. Il y a une guerre par procuration qui a lieu dans plusieurs États africains, qui est l'épicentre de la tension géopolitique. Il y a une guerre par procuration qui a lieu en Syrie. Et une guerre par procuration reste-t-il possible entre le Donbass et l'Ukraine. Les relations sont de plus en plus se dégradées. Je vais vous expliquer ce qui caractérise la guerre par procuration. C'est la reconstitution des blocs militaires et géopolitiques, comme du temps de la première guerre froide avec le bloc soviétique et le bloc américain. On va donc assister à une radicalisation. Les alliances géopolitiques sont en train d'éclater. Il y a des gens qui changent de côté. En Afrique, il y a plusieurs États. La Guinée-Conakry, le Sénégal, le Bénin est en train de changer de côté à s'orienter vers le bloc de l'Est. On a le même phénomène en Asie. Le Pakistan, c'était le grand allié des États-Unis, est en train de se tourner vers le bloc africain. Mais parallèlement à cela, les BRICS sont en train d'éclater. L'Inde aujourd'hui est le meilleur allié des Américains et de l'impérialisme français dans l'océan Indien et sur les contreports tous les modèles. Voilà ce qui est en train de se passer. On est dans un monde géopolitique qui est en train de s'orienter vers une croisée qui est contraire. La peur de la guerre nucléaire a fait que le monde a connu 60 années sans guerre mondiale. C'est une époque qui se termine malheureusement.
Merci, M. Michel.
La période actuelle, c'est la mise en place de gens qui sont destinés à se faire la guerre dans la seconde partie de la guerre.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, Fabrice Boire, expert pour l'ONGO depuis Moscou. Je vous remercie infiniment d'avoir été nos invités pour cette émission. Merci beaucoup.
À bientôt.
À très bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Pays des merveilles. L'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des beautés. De par sa nature diversifiée et sa culture variée, en passant par ses sites et monuments historiques datant de millénaires, sans oublier ses arts sophistiqués, l'Iran surprend tout un chacun qui lit, entend, parle ou visite ce pays. Cette série d'émissions qui s'intitule Iran, pays des merveilles, vous fera découvrir, tant soit peu, la terre de Perse, riche d'une histoire et d'une civilisation plurimillénaire. Depuis deux semaines, nous sommes dans la province d'Ispahan. La dernière fois, nous avons parlé en détail de l'histoire de cette province. Dans cette édition, nous nous attarderons sur l'architecture de la province, son industrie et son économie. À Ispahan, comme dans de nombreuses villes d'Iran, l'architecture vernaculaire est à base de torchis et de briques. Les maisons sont toutes des habitations individuelles. À toiture, en terrasse, sur un ou deux étages, et s'inscrivent dans un tissu urbain continu. Toutes les maisons sont construites selon le même plan. Les pièces d'habitation entourent un espace à ciel ouvert et sont elles-mêmes entourées de hauts murs. Seule une petite porte extérieure autorise l'accès à l'intimité familiale. L'espace central à ciel ouvert, qu'est la cour intérieure, relève d'usages préhistoriques au Proche et au Moyen-Orient, qui se retrouve d'ailleurs dans l'atrium romain. À Ispahan, des cours étaient irriguées par un système complexe de canaux situés dans la rue qui permettaient de cultiver plantes et arbres apportant de l'ombre et de la fraîcheur durant l'été. C'est à ces arbres cultivés dans toutes les cours qu'Ispahan doit son aspect de forêt, de cité-jardin.
À Ispahan, toutes les maisons sont disposées selon une trame relativement régulière, tranchant avec l'aspect anarchique du bazar, pourtant considéré comme la colonne vertébrale de la ville. Les quartiers royaux d'Ispahan, les quartiers d'habitation, l'organisation du bazar en différentes parties dédiées à certains artisanats ou à certains commerces donnent une impression d'agglomération à taille humaine. Henri Sterling évoque également une continuité architecturale entre la cour des maisons, faisant office de jardin intérieur, et le concept iranien de mosquée à cour. Un bassin central polarise l'espace et l'élément floral recouvre les parois. Ces éléments floraux peuvent être réels, comme les arbres dans les cours intérieures des maisons, ou figurés, comme le sont les arbres et les fleurs présentés sur les cachis, les céramiques qui recouvrent les parois des mosquées. Le principe de la cour est récurrent dans l'architecture islamique. On retrouve en effet les cours dans les caravansérails, dans les écoles ou madrassés et dans les centres de négoces et marchés possédant leurs entrepôts. Les préoccupations des bâtisseurs persans dépassent les considérations esthétiques et se situent dans une perspective de conscience et de connaissance. Les dimensions de la mosquée du Shah sont basées, par exemple, sur celles du bassin central, comme si l'eau était la source de vie de l'édifice. La cour de la mosquée semble mettre en relation le croyant avec la divinité. C'est une salle dont la coupole se présente comme la voûte céleste. Leur ornementation de faïence est toujours disposée sur les parois des bâtiments comme si ceux-ci étaient des boîtes brutes, odores, mais formant un écrin précieux au-dedans. Les cours des maisons ou des mosquées, avec les céramiques représentant des arbres et plus généralement la nature, sont aménagés comme des jardins symbolisant le paradis. Les ivans des mosquées sont conçus comme des grottes, souvent décorées en bleu et parfois remplies de stalactites. Sterling pense que la représentation de l'ivan est celle d'une grotte artificielle qui doit conduire à la source de vie, à la porte du ciel. Les décors des dômes des mosquées et des madrassés sont des arbres à la houppe verte et comparables à l'arbre de vie oriental. Les interprétations de Sterling sont corroborées par les travaux d'Henri Corbin sur la théosophie chiite. Les cités d'Emerod, auxquelles peut être comparé Ispahan, sont considérées par les mystiques chiites, Tabari, repris par Sohrevardi ou Sheikh Ahmad Arsaï, comme la frontière avec l'autre monde. Le symbolisme de l'arbre Touba est celui du miroir, symbolisé par les décors de céramique ou les plans d'eau dans les bâtiments d'Ispahan de l'époque safavite sont également utilisés dans la philosophie chiite. L'aspect spécifique de l'urbanisme d'Ispahan se trouve menacé par la modernité. En effet, les modes de vie traditionnels sont contrariés par l'apparition de critères architecturaux modernes. Ainsi, l'arrivée de l'électricité, en permettant la climatisation, a perturbé les comportements, comme l'habitude de dormir sur les toits en terrasse, à la belle saison. De plus, les critères économiques modernes essaient de nationaliser l'espace. Les maisons traditionnelles, avec cour, nécessitent en effet un espace conséquent qui, s'il est utilisé pour la construction d'un immeuble, permet de loger plusieurs familles. De même, l'eau courante a été fatale aux réseaux hydrauliques traditionnels et par voie de conséquence aux jardins intérieurs et à l'aspect verdoyant de la ville. La brique, un des meilleurs régulateurs thermiques naturels, a été remplacé par le béton sous la pression de la rationalisation économique. L'absence de loi de protection de l'architecture traditionnelle, de décision publique et le peu de moyens alloués à la protection des zones sensibles de la ville met en danger cette forme d'urbanisme particulier d'Ispahan. la protection de la place Nakhchedjahan depuis 1988 et son accession au statut de patrimoine mondial de l'humanité ne suffisent pas à préserver l'architecture vernaculaire traditionnelle, pourtant très adaptée aux conditions de vie dans cette région, tant de chaleurs extrêmes de l'été qu'aux rigueurs de l'hiver. Isfahan est située à la croisée des chemins qui traversent l'Iran du nord au sud ou d'est en ouest. Les routes commerciales entre la Chine, l'Inde et l'Empire ottoman, dont la route de la soie, et entre le golfe Persique et la Russie. L'établissement d'un monopole royal sur les biens d'exportation à l'époque safavide renforcera encore la dimension internationale de la capitale iranienne de l'époque. Au XVIIe siècle, Isfahan est d'ailleurs le premier lieu d'accueil de la diaspora indienne qui compte entre 10 000 et 15 000 marchands dans cette ville. Depuis la renaissance safavide, Isfahan a acquis une importance économique en Iran. La situation de la ville, au milieu d'une oasis, a permis à ce secteur de disposer d'une agriculture irriguée, encore facilitée par les travaux de canalisation entrepris par Shah Abbas Ier. Les artisans ont toujours produit des articles et ustensiles utiles aux populations, mais l'établissement de la capitale des Safavides à Isfahan ainsi que le rayonnement culturel de la ville ont permis de créer une industrie du luxe à cette époque. Joaillerie, textiles, tapis, objets décoratifs et manuscrits ont été produits en abondance à l'époque safavide. Cette activité manufacturière d'Isfahan a perduré jusqu'à l'époque Qajar. La province d'Isfahan est la troisième province d'Iran en termes d'accueil de touristes. Le fait que la place Nakhchedjahan soit inscrite au patrimoine mondial de l'humanité et plus généralement l'offre touristique de la ville, bâtiments historiques, artisanat, etc., attire de nombreux touristes iraniens et des touristes étrangers. La semaine prochaine, nous vous évoquerons les monuments et lieux historiques et touristiques de la province d'Isfahan et de son chef-lieu. D'ici là, thank you.